14h, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Nous avons une petite heure, mais c'est déjà important pour mettre en avant vos projets et vos initiatives. Et on le voit chaque jour dans La France bouge. Chacun, à son échelle, a la capacité d'améliorer le monde après cette crise inédite. À mes côtés, pour en parler, Dora Nana, la rédaction d'Europe 1. Bonjour Dora.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Et notre coach de la semaine, la fabuleuse Marie-Éloi. Wow. Mais si, vous êtes
chance.
Présidente du réseau Bouge ta boîte et de Femmes des territoires. Bonjour Marie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Vous allez passer la semaine avec nous. Vous allez aussi aider les entrepreneurs qui viennent nous présenter leurs projets, des projets parfois aboutis, déjà juste encore à l'état de projet, des conseils, des suggestions. Et là, on commence par une entreprise, une start-up qui est née pendant la crise du Covid-19. Bonjour Julien Delprat.
Bonjour à vous.
Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de Kimp, qui commercialise Kimp Safe. On dit Kimp, c'est ça? Ça se prononce comme ça?
Exactement, on dit Kimp.
Kimp,
K-I-M-P.
Voilà, Kimp Safe, qui permet de payer sans contact sur les distributeurs automatiques. Vous allez tout nous expliquer, ça a été mis en place là très récemment, à la fin du mois de mai. Qui êtes-vous? Comment vous est venue cette idée? On vous écoute, vous avez 1 minute 30.
Alors c'est parti. Donc, suite à la pandémie de Covid que nous venons tous de vivre et suite au déconfinement qui a commencé le 11 mai, nous nous sommes rendus compte qu'un certain nombre d'entreprises avaient interdit l'utilisation du distributeur automatique à leurs salariés pour éviter les risques de propagation du virus. Ce qui a plongé les gestionnaires de ces machines dans une situation économique très difficile. Pour répondre à cette problématique, on a imaginé et lancé Kimp Safe, qui est en fait une solution d'utilisation complète sans contact du distributeur automatique. En fait, comment ça se présente? Kimp Safe, c'est un petit boîtier qu'on installe en une dizaine de minutes à l'intérieur du distributeur. Une fois que c'est installé, le consommateur qui a téléchargé l'application sur son téléphone portable s'approche de la machine. Et là, sur son téléphone, il va retrouver l'ensemble des sélections, c'est-à-dire le café court, le café long et ainsi de suite. Et il va pouvoir faire son choix directement sur le téléphone. Donc, il va choisir le café, il va régler son niveau de sucre de la même façon qu'il le ferait sur un clavier classique de distributeur. Et là, il va valider sa transaction, la machine va lui servir son café. Et tout ça est payé via un compte mobile qui va recharger avec sa carte bleue, ce qui évite la manipulation de la monnaie qui est aussi une source et un vecteur de contamination. Donc, Kimp Safe permet aux gestionnaires des machines de remettre en service le matériel qui était arrêté et donc de remettre en service leur activité et aux entreprises de proposer une vraie solution pour la pause des salariés qui ont de toute façon besoin de boire du café, on en est tous là. Voilà, donc Kimp Safe rend le distributeur connecté et va ajouter plein de fonctionnalités liées à l'Internet, c'est-à-dire que le gestionnaire va pouvoir suivre en direct la vie de sa machine et gérer l'ensemble de son parc machine.
Vous êtes parfait hein, au niveau timing, 1:30, au niveau du pitch. Moi, j'ai tout compris.
Clair.
Dora, vous avez tout compris?
J'ai des questions, mais j'ai tout compris.
Et Marie?
Ah,
pareil. Et ben voilà, donc déjà, 20 sur 20 là-dessus, c'est parfait, bravo.
Ça
commence très bien. Vous facilitez en quelque sorte la vie des salariés dans les entreprises. Je laisse Marie vous poser sa première question.
Moi, j'ai trouvé ça brillant parce que c'est vrai que devant la machine à café, on est tous en train de chercher nos pièces de monnaie. On n'a souvent pas la compte ou alors il faut un badge.
Ou bien
le recharger
aussi.
Voilà, il faut penser à le recharger. Et là, je trouve que ça, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour le consommateur, c'est simple. Pour l'entreprise, parce qu'elle n'a plus besoin de gérer les badges. Et en plus, ça permet de sécuriser tout ce qui est propagation du virus. Et puis, pour les gestionnaires des distributeurs, parce qu'ils vont pouvoir suivre en temps réel, notamment l'approvisionnement.
Bien sûr, la gestion.
Donc, je trouve ça brillant. Et je pense que votre plus gros défi, c'est la concurrence. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des concurrents? Et comment vous allez faire pour inonder au plus vite le marché?
Ce sont de très bonnes questions et une très bonne analyse. Aujourd'hui, il y a des concurrents sur les systèmes de paiement, puisqu'il existe différents systèmes de paiement, notamment carte bleue sans contact classique. Par contre, il n'y a pas de solution pour la sélection sur le mobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut payer, mais on peut pas sélectionner sans toucher le distributeur. Mmh. Et là, c'est aussi la force de Kimp Safe pour répondre à la problématique du Covid, c'est de sélectionner directement sur le téléphone. Donc, il n'y a plus aucun contact avec le distributeur automatique. Après, pour inonder le marché, écoutez, on a pris notre bâton de pèlerin et puis moi, je suis issu du monde de la distribution automatique. Donc, c'est un monde que je connais bien.
Donc vous avez déjà quelques clients potentiels?
Alors, quelques clients, quelques confrères. Et puis surtout, il y a au sein de cette profession un certain nombre de groupements de gestionnaires avec qui nous sommes en contact et qui vont nous aider à proposer notre solution à leurs adhérents.
Mais comment vous avez réussi à mettre ça en place aussi rapidement? Parce qu'il faut d'abord, il faut y penser pendant la crise. Alors, vous êtes issu de ce secteur, donc j'imagine que vous avez anticipé les besoins des uns et des autres. Mais comment vous avez réussi à tout mettre en place aussi dans un temps record?
Alors, pour tout vous dire, on a travaillé pendant le confinement, au début du confinement, nous, on travaillait sur l'application mobile uniquement de paiement sur les distributeurs.
Compte sans contact, oui.
Sans contact. Et en fait, on a juste, si vous voulez, le 11 mai, quand ça a déconfiné et que je me suis rendu compte que les entreprises interdisaient l'utilisation du distributeur, on s'est dit, est-ce qu'il serait possible d'imaginer une brique qui permettrait de faire l'ensemble de la chaîne, le processus de sélection et de vente, sans toucher le distributeur?
Une idée que vous n'auriez peut-être pas eue s'il n'y avait pas eu le confinement. Dora,
j'adore l'idée et en vous écoutant, je me suis dit, mais pourquoi ça n'existerait pas dans les gares, dans les lieux publics?
Exactement.
Dans le métro? C'est un objectif pour vous? Parce que moi, j'adore ça.
Bien sûr, c'est un objectif pour tout un tas de choses. Alors, encore plus dans les lieux publics, dans la mesure où c'est là que probablement il y a le plus de contacts.
Beaucoup de passages.
Exactement, beaucoup de passages et forcément beaucoup de vecteurs de contamination. Et puis, c'est adaptable sur un distributeur automatique de boissons chaudes, mais on pourrait l'imaginer pour tout un tas de choses.
D'accord.
Un tas de ventes, tout ce qu'on touche aujourd'hui avec les mains pour sélectionner, qui pourrait être fait sans contact.
Marie?
Et ça va aussi dans le sens de privilégier le téléphone comme outil de paiement.
Mmh. En plus, c'est personnel, le téléphone.
Oui.
Donc, il va falloir qu'on l'utilise de plus en plus compte tenu de la façon dont nous sommes en train de nous adapter dans cette nouvelle façon de vivre.
Bien sûr. Alors, le confinement a eu aussi cet effet-là. Il a accéléré la diffusion du paiement sans contact via la carte bleue.
Oui, avec les 50 euros, le plafond de 50 euros.
Les réfractaires à cette solution-là l'ont utilisé de plus en plus pendant le confinement. Et donc, ça se démocratise vraiment. On fait de plus en plus de choses avec le téléphone. On a de moins en moins de monnaie dans les poches. Je pense que la monnaie est amenée à disparaître dans un avenir plus ou moins proche.
Ça s'appelle KimSafe. Merci à vous, Julien Delprat, d'être venu nous présenter votre projet. On vous souhaite énormément de clients parce que, franchement, l'idée est formidable. Parfait.
Merci beaucoup pour votre accueil, en tout cas. Et puis, à très bientôt pour la suite.
Il est 13h15. Comment redonner confiance aux consommateurs avant d'entrer dans un commerce? Oui, parce qu'il faut du monde dans les commerces. Eh bien, Dora Nana a trouvé la solution. À tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Et c'est le moment de retrouver Dora Nana pour la solution du jour. Dora, aujourd'hui, vous allez nous parler d'une solution qui s'appelle Safe Place to Shop. Bon, c'est encore en anglais, mais vous allez nous le traduire. Comment redonner confiance aux consommateurs avant d'entrer dans un commerce? Et on en a énormément besoin en ce moment.
On en a énormément besoin parce que retourner faire du shopping, braver la foule d'un centre commercial, ça ne se fait pas sans une pointe d'appréhension aujourd'hui. Donc comme vous le dites, gros besoin d'être assuré si on veut que nos commerçants durs redémarrent et que les clients reviennent arpenter les rayons. Alors Safe Place to Shop, c'est un dispositif qui permet aux consommateurs, donc vous, moi, de donner notre avis sur le respect des règles sanitaires des points de vente qu'on fréquente. Bonjour Timothée Delettre.
Bonjour Dora.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur de la start-up WithVille, encore un anglicisme, qui est à l'initiative de ce mouvement, qui est donc baptisé Safe Place to Shop. Alors moi, on a reçu ici énormément de labels, de certifications, pour rassurer justement les consommateurs sur les règles sanitaires. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, avec ce label-là?
La grosse différence, c'est qu'il s'agit d'avis clients vérifiés sur les mesures sanitaires anti-Covid-19, telles qu'elles sont ressenties
dans
par
le magasin.
Les consommateurs dans le magasin.
En physique.
Donc complètement,
voilà.
Les clients vont réaliser un achat dans les à peu près 1000 points de vente partenaires de Safe Place to Shop. Et puis dans les heures qui vont suivre, ils vont recevoir via email ou via SMS un questionnaire très court. On va leur demander de noter de 1 à 5 ou de 1 à 10 les mesures sanitaires, les mesures qui sont mises en place pour lutter contre le Covid-19. Et puis ensuite de commenter, d'expliquer leurs notes et d'expliquer ce qui est mis en place pour lutter contre le Covid. Donc ça peut être le sens de circulation, ça peut être le contrôle du nombre de personnes qui rentrent dans le magasin, la mise à disposition de gel. Et les avis, une fois qu'ils sont collectés, ils sont diffusés automatiquement sur le site safeplacetoshop.com, dans les vitrines des magasins aussi potentiellement.
Oui, si... comment je le retrouve? Dans la vitrine du magasin, c'est-à-dire je suis averti que je peux aller sur cette application, sur votre site web, pour vérifier et puis pour voir ce que disent les autres avant de m'y rendre, avant même d'y rentrer.
Tout à fait. Directement dans la vitrine du magasin, vous avez soit un macaron Safe Place to Shop qui indique au consommateur qu'il peut se rendre sur le site Safe Place to Shop pour consulter les avis Safe Place to Shop sur ce point de vente-là, ou il peut y avoir directement une attestation où on retrouve la note moyenne Safe Place to Shop de ce commerce-là avec un QR code qui permet de retrouver l'ensemble des avis en temps réel.
Il y avait une réelle, vous êtes spécialisé, hein, Wizville, vous êtes spécialisé dans la collecte des avis d'achat. Est-ce qu'il y avait vraiment un besoin, une attente de vos clients commerçants également, vous?
Tout à fait.
Vous disiez, on a besoin de ça pour redémarrer.
On travaille essentiellement avec des enseignes de commerce qui ont quasiment toutes dû fermer leurs portes pendant le confinement. C'était très dur donc, pour elles économiquement. Et au moment du déconfinement, elles ont appris que 30% des consommateurs avaient peur, n'étaient pas prêts à retourner en magasin. Et donc pour nous, il a été... ça s'est imposé comme une évidence de lancer un service solidaire pour rassurer les consommateurs sur ce que les commerçants mettent en place pour lutter contre le Covid-19. Donc l'objectif, rassurer les consommateurs pour qu'ils reviennent dans les magasins et puis aussi effectivement contribuer à la lutte contre le virus, puisque plus les consommateurs se sentent en sécurité, plus les notes grimpent, plus les commerçants attirent de nouveaux clients et donc mieux on lutte ensemble contre le virus.
Alors qu'est-ce qui rassure le plus dans ce qui ressort ? C'est quoi
Alors,
le plus important
le plus...
Parce que avoir une file d'attente d'une demi-heure pour entrer dans un magasin de vêtements,
c'est décourageant.
C'est décourageant. Alors, même si tout est respecté.
Je serais très heureux si l'ensemble de mes clients avaient des queues donc à leur entrée.
Qui sont alors justement, vous parlez de vos clients, c'est des grandes enseignes ou c'est des commerces de proximité?
C'est des enseignes de commerce. Donc c'est effectivement des grandes enseignes. On travaille par exemple avec Truffaut, avec Maison 123, avec Cuisinella. Qui sont des enseignes donc, qui utilisent Safe Place to Shop. Leur problématique à eux, c'est plutôt que les clients reviennent. Parce que les clients, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une baisse très sensible du trafic. Et donc, comme je le disais, il y a 30% des consommateurs qui aujourd'hui réduisent leur déplacement
dans les commerces. Alors, c'est quoi un commerce dans lequel on se sent rassuré d'après les avis des gens que vous avez
alors, c'est un commerce dans lequel, Eric. Dès l'entrée, il y a donc, du gel hydroalcoolique disponible. De la même manière, si le magasin est plutôt grand, d'autres endroits où il y a du gel hydroalcoolique, mais également donc un sens de circulation qui est respecté, le port du masque obligatoire, notamment pour les collaborateurs qui y travaillent, et puis un contrôle du nombre de personnes qui rentrent dans le magasin. Ça, c'est quelque chose qui est très apprécié de la part des consommateurs, ou au contraire, qui peut
freiner.
Faire
Marie-Éloi.
Oui, alors c'est vrai que c'est rassurant d'avoir un label comme celui-ci. C'est aussi généreux parce que vous ne l'avez pas dit, mais vous donnez 50% des bénéfices aux hôpitaux.
Tout à fait.
Et par contre, ça concerne, comme vous l'avez dit, les grandes enseignes. Donc, il faut aller sur votre site, voir les enseignes qu'on aime bien et puis voir si elles sont effectivement une safe place.
Alors, effectivement.
J'aimerais, c'est voir aussi les commerçants près de chez moi, de savoir, lui, voilà, je peux y aller, j'ai l'habitude d'y aller, je sais qu'il est safe aussi.
Alors, la différence qu'il y a entre un service où on peut donner son avis librement et Safe Place to Shop, c'est que ce sont des avis vérifiés.
C'est ça, vous n'êtes pas TripAdvisor,
voilà,
c'est pas du déclaratif, c'est vraiment avec un tampon, vous avez vérifié chaque avis, donc c'est très sérieux, c'est ça.
Tous les clients qui peuvent donner leur avis sont des clients qui sont identifiés, soit parce qu'ils utilisent la carte de fidélité du magasin,
donc
soit parce qu'ils ont réservé
d'y aller.
Leurs produits
et
en ligne.
Et vous voyez une progression entre le 11 mai et aujourd'hui, est-ce que vous voyez une évolution, une reprise de confiance?
Tout à fait. Ce qu'on constate, c'est que déjà les notes ont toujours été très bonnes. Et effectivement, il y a finalement des choses qui ont été identifiées grâce à la solution, parce que la solution permet aussi aux collaborateurs d'identifier ce qu'ils peuvent faire pour que leurs clients se sentent encore plus en sécurité. Et donc, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il fallait que les gels soient mis plus en évidence à l'entrée des magasins, notamment. Souvent, il y en a, mais on ne le voit pas. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que c'était toujours plus rassurant si les autres clients étaient obligés de porter un masque. Alors, bon, avec l'été qui arrive, forcément, ça peut évoluer, mais en tout cas, jusqu'à date, c'est ce qu'on a constaté.
Donc, si on voit votre label, on sait que c'est très sérieux, c'est ça.
Exactement.
Et on ressortira en bonne santé. Donc, on ressort en bonne santé. Merci Thibaut Delettre, ça s'appelle Safe Place to Shop, premier dispositif d'avis client vérifié pour assurer le consommateur en magasin physique. Il est 13h24.
Europe 1.
Les soignants, on les a applaudis, admirés, soutenus. On continue. Alors, où en sont-ils? Comment continuer à les aider? Restez avec nous. C'est le dossier du jour dans La France Bouge.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag.
Les Français sont toujours reconnaissants envers nos soignants. Ils soutiennent le personnel soignant. Et la preuve, cette initiative sportive depuis ce matin. Aujourd'hui, il faut le dire qu'on est le 23 juin. C'est une journée olympique. Et il y a eu le marathon de la solidarité qui a démarré à 10h à Paris avec des groupes de 6 à 10 coureurs, des sportifs, des médecins, des professeurs de sport qui sont partis de l'INSEP près du Bois de Vincennes et qui ont rejoint
près de 32 hôpitaux de la région parisienne pour remercier les soignants de tout le travail accompli pendant la crise. Bonjour Denis Masseglia.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président CNOSF, Comité Olympique Français, et vous venez tout juste d'accueillir les coureurs à l'arrivée.
Alors, un groupe de coureurs, ceux qui passent par le Comité Olympique pour une petite collation bien méritée quand même,
avant
de repartir vers le centre médical Montsouris qui est juste à côté et qui est en partenariat aussi avec l'INSEP et avec le Comité Olympique Français, donc pour accueillir notamment tous ceux qui ont quelques soucis de type cardiologie.
Alors, pourquoi avoir créé cette initiative? Quel est l'objectif? C'est envers
alors,
les soignants.
Il faut rendre à César ce qui lui appartient, et en l'occurrence à Christian Cordier, qui est un ancien enseignant d'éducation physique et sportive, qui est aussi un fou d'athlétisme, et qui a imaginé cette course solidaire le jour de la journée olympique. Il a demandé évidemment si on était d'accord pour l'inscrire dans le cadre des activités journée olympique, ce que nous avons fait avec enthousiasme et plaisir. D'autant plus que finalement, l'hommage aux soignants, le jour où on célèbre les valeurs de l'olympisme, c'est dire combien les soignants ont été importants, importantissimes, je dirais même, dans cette période délicate qui n'aurait pas pu être passée sans leur dévouement, sans leur engagement, sans tout ce qu'ils ont fait et qui nous vaut à leur égard le plus profond respect.
Donc le plus profond respect, donc sortir du confinement par le sport, c'est une façon aussi de les mettre dans la course, hein, sans jeu de mots.
Alors, sortir du confinement, j'ai envie de dire avec le sport, pas par le sport, parce que le sport a été présent pendant la période de confinement. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'on puisse aujourd'hui rebondir et imaginer comment on peut demain retrouver une vie un peu plus normale. J'espère que ça sera le cas. En tout cas, le sport peut y contribuer. Les clubs sont là pour accueillir de nouveau avec le respect des consignes sanitaires, parce qu'on s'aperçoit aussi que le mal n'est pas encore complètement vaincu et il faut continuer à être prudent.
On court comment dans le respect des gestes barrières?
Ben, on court sans masque, mais à une certaine distance les uns des autres pour éviter tout risque entre coureurs. Et puis, il y en a un ou deux qui précèdent un vélo devant pour qu'effectivement, il n'y a pas de croisement avec d'autres personnes.
Et puis, on se rafraîchit, on boit beaucoup d'eau parce qu'il fait très, très chaud aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que c'est aussi une précaution. Mais bah, ça, c'est aussi une précaution, même en temps de non-pandémie.
Sans pandémie. Marie-Éloi, une question pour vous.
Oui, ça fait partie de cette belle chaîne de solidarité qui rend hommage à nos soignants. Donc bravo pour ce que vous faites. Je voulais savoir, est-ce que tout le monde pourra venir faire cette course? Est-ce qu'il y aura une nouvelle édition? Est-ce qu'on pourra tous y participer? Parce que finalement, quel que soit notre âge, notre niveau social, on peut tous montrer notre solidarité envers les soignants en courant. Et le sport, on sait que ce sont vraiment de belles valeurs
et
qui peuvent
partie.
Être affichées. Voilà.
Alors déjà, il y a une manière de pouvoir le faire, c'est en relayant via les réseaux sociaux pour montrer qu'on s'associe à la manifestation. Mmh. Après, pour ce qui est de la refaire, nous allons avoir en septembre toute une série de manifestations pour la rentrée, y compris pour célébrer finalement la journée olympique de manière un peu plus ostentatoire qu'aujourd'hui, où on l'a fait en étant avec un régime extrêmement limité, en espérant qu'en septembre on pourra le faire de meilleure manière. Donc vous aurez l'occasion de vous joindre à des manifestations. Bon, il faudra juste que l'on soit attentif à le faire savoir suffisamment de temps à l'avance pour que tous ceux qui sont intéressés puissent s'y inscrire.
Suffisamment communiquer. Et l'objectif, hein, c'est aussi de récolter des fonds pour aider le personnel soignant. Il n'y a pas que le sport, il y a aussi les fonds.
Oui, alors mais les fonds, on ne fera jamais autant que ce qui a été fait par l'intermédiaire de fonds de dotation ou d'opérations de cagnottes solidaires qui ont été mises sur pied exprès. Nous, on voulait davantage témoigner d'une opération originale qui permet d'associer les valeurs de l'olympisme aux valeurs dont le personnel soignant a fait preuve dans des circonstances extrêmement difficiles.
Merci Denis Masséglia. Je rappelle que vous êtes le président CNOSF, Comité Olympique Français. Merci pour cette très très belle initiative. On parle de fonds et on va continuer à soutenir les soignants. Et ce n'est pas la première fois que les sportifs s'engagent, comme avec cette autre initiative, Tous en Blanc. Bonjour Geoffrey Duniac.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous dans notre studio à Europe 1. Alors vous êtes à l'initiative de Tous en Blanc. Tous en Blanc, c'est un mouvement qui a été lancé au début du mois de mars et c'est un énorme succès. Vous avez réuni près de 4 millions de personnes.
Oui, tout à fait. En fait, je travaille dans le monde du sport, j'ai une start-up et en fait, au début du confinement, le monde du sport a été complètement arrêté. Je pense qu'on a tous été sous choc par l'arrêt des sports professionnels et puis de ne plus pouvoir pratiquer.
Et des clubs.
Exactement, et des clubs. Et en fait, depuis, là où j'étais confiné, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de mouvements en fait, et de soutien qui étaient initiés par certains sportifs.
Et moi, de manière un peu isolée.
Exactement.
Et vous, en tant que rugbyman, vous avez dit je vais faire quelque chose.
On va faire équipe.
Voilà. Moi, l'idée, c'est que le sport, pour moi, il est censé réunir. Et je me suis dit pourquoi on ne pourrait pas réunir l'ensemble du monde du sport pour apporter un message de solidarité et de soutien aux soignants. Et donc, c'est comme ça que l'idée de Tous en Blanc est née. Très vite, j'en ai parlé un petit peu autour de moi et on a trouvé cette idée du slogan Tous en Blanc et du t-shirt Tous en Blanc. Et on s'est rapproché aussi de l'équipe à qui on a proposé en fait, de venir en soutien de ce mouvement-là. Et c'est comme ça que le mouvement est parti. Et donc, effectivement, très vite, on a beaucoup de gens qui ont apporté à la fois un soutien moral à travers les réseaux sociaux.
Avec le hashtag Tous
en Blanc. Mais aussi, en fait, à travers une cagnotte qu'on avait mise en place avec la Fondation de France.
Et la cagnotte, elle a bien grossi.
Alors, la cagnotte a bien grossi, elle est toujours active. Alors, comme l'a dit le président, il y a eu énormément de fonds qui ont été collectés à droite et à gauche. Donc, j'allais dire que la cagnotte, aujourd'hui, elle est symbolique. Mais, par contre, en fait, ce qui est important, c'est qu'une initiative aujourd'hui comme le Marathon de la Solidarité fait toujours vivre le mouvement Tous en Blanc, puisqu'on incite les gens à donner sur Tous en Blanc.
Donc à donner, et aussi à des dons, mais aussi des performances de sportifs engagés, comme vous. J'ai vu sur le site aujourd'hui, depuis mars, 303 km de course à pied sur le tapis, 1426 km à vélo. Tout ça aussi, ce sont des performances, des petits challenges pour soutenir Tous en Blanc.
C'est ça, ça c'était la belle surprise qu'il y a eu en fait successivement après le soutien de Tony Estanguet, après le soutien du président de la République ou autre. On a eu des sportifs comme Renaud Lavillini qui sont venus vers nous en disant voilà, moi je veux faire du sport, je veux donner à titre personnel et soutenir le mouvement Tous en Blanc. Et donc ils se sont mis à mettre en place des performances sportives en fait et à donner en fonction de leur performance sportive. Et donc ça a eu aussi un grand succès.
Marie-Éloi.
Oui, c'est magnifique, ça montre, vous êtes la preuve que quand on s'engage, quand on commence à s'engager, derrière il peut se passer à une chose. Incroyable, 4 millions de personnes. Vous avez réussi à fédérer juste en vous disant, mais voilà, c'est pas possible, toutes ces initiatives isolées, je vais les fédérer avec un hashtag et 4 millions de personnes sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que vous avez une responsabilité qui est forte. Avec 4 millions de personnes, on peut faire du lobbying pour changer les conditions de vie des soignants, changer peut-être leur salaire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 4 millions de personnes?
Alors, ça fait beaucoup de responsabilités quand on va parler comme ça.
Mais... je vous les donne. Vous en faites ce que vous voulez.
Non, moi, je pense qu'il y a plein de choses en fait, qu'on peut dire et des conclusions qu'on peut tirer de tout ça. C'est que le sport et la solidarité, à mon avis, ne font qu'un. Il y a un certain nombre de valeurs qu'on retrouve à travers ça. Et ça, je pense qu'il est important de le perpétrer. C'est-à-dire que oui, il y a un confinement qui est terminé. Pour autant, le Covid est toujours là. Et pour autant, en fait, les problématiques des personnels de santé qui ont été remontés en fait, sont toujours là. Et on doit continuer de les soutenir à travers un certain nombre d'actions. On doit montrer et continuer, de pouvoir en parler autant qu'on peut et de les soutenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit que le sport aussi a rendu hommage au personnel soignant. On voit des clubs professionnels, des fédérations qui aujourd'hui ont prévu d'inviter les soignants pour leur dire merci. Ça, c'est une première étape. Il y a des choses qu'on a constatées aussi, nous, dans les clubs au quotidien, c'est que les clubs, en fait, ont essayé de prendre soin aussi de leur personnel soignant. Ils vont continuer à le faire. C'est-à-dire qu'il y en a qui se sont substitués à la garderie d'enfants, il y en a qui sont allés faire des masques, il y en a qui sont allés donner des cours de sport pour permettre au personnel soignant, de retrouver une activité, de pouvoir se libérer un peu l'esprit par rapport à tout ça. Et j'allais dire que le plus grand geste qu'on peut faire demain vers eux, c'est la pratique du sport. On sait que le sport aujourd'hui est capable de nous maintenir en bonne santé, est capable de nous éloigner de ce Covid-là. Le président l'a évoqué, il y a un besoin de retourner faire du sport. Et je pense que le plus grand message, ou d'ailleurs le plus gros message de soutien qu'on pourrait porter aux personnes soignantes, c'est celui-là, c'est continuer à faire du sport, continuer à pratiquer, parce que ça nous éloignera du Covid.
Continuer à faire du sport, continuer à le pratiquer, et aussi continuer à exprimer cet élan de solidarité. Hein, Edora, il y en a des initiatives.
Et des initiatives du même type, sportives, par exemple, dans les Yvelines, il y a un club de boxe, celui de Villepreux, qui propose une adhésion gratuite d'un an aux soignants. Ça, j'ai trouvé ça super, parce que quoi de mieux pour se défouler que la boxe. Il y a aussi l'aéroclub d'Assaut Île-de-France à Chavernay qui a ouvert une cagnotte avec un site, un vol pour les soignants. Et en fait, ils offrent des baptêmes de l'air à ceux qui ont œuvré ces derniers mois face à la maladie. Et vous avez jusqu'au 15 juillet pour participer. Les vols auront lieu entre le 15 et le 30 septembre. Vous survolerez les airs.
Merci en tout cas Geoffrey Duniac à l'initiative de Tous en Blanc. C'est une très belle initiative. Donnez-nous de vos nouvelles parce que 4 millions de personnes, comme dit Marie, on peut faire quelque chose, on peut continuer à soutenir les soignants et c'est ce qu'il y a de plus important. Il est 13h38, un dîner pour deux et un dîner pour tous ceux qui ont travaillé dans les services Covid. Des chefs se mobilisent pour remercier les soignants. On va les écouter, à tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Et on continue de soutenir les soignants aujourd'hui qui ont été et qui sont toujours nos héros pendant cette crise du Covid-19 et même après. Et il y a une initiative qui s'appelle À table les soignants. À table les soignants, c'est pour continuer les applaudissements qui ne se feront plus sur les balcons mais dans les restaurants. Il existe un site pour s'inscrire si vous êtes soignant ou restaurateur, atablesoignants.fr. Vous allez tout nous dire. Bonjour Arnaud Donquel.
Bonjour.
Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes le chef triplement étoilé de plein de restaurants, de la Vague d'Or, du Cheval Blanc Saint-Tropez, du Cheval Blanc. Et vous avez lancé l'opération À table les soignants avec le soutien du guide Michelin, ainsi que le soutien de l'association de notre chère Anne Roumanoff, Solidarité avec les soignants. C'est un très très beau geste, c'est une merveilleuse idée. Expliquez-nous comment vous l'avez eue et comment elle se déroule.
Alors déjà c'est une idée qu'on a eue aussi à travers moi qui est collective et aujourd'hui on est aussi très heureux d'annoncer que TikTok a été très actif pendant le confinement, nous rejoint dans cette initiative pour l'après.
Ah oui, TikTok,
une plateforme
des ados.
Voilà, tout à fait. Non, TikTok.
Donc TikTok. OK.
Voilà. Et donc qui s'est occupé de tous les repas pour les hôpitaux. Et bah c'est des plateaux repas qui sont faits par des chefs pour les entreprises, mais qui ont été extrêmement actifs pour pendant le confinement et dont le parrain est Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée. Et donc qui nous rejoignent maintenant dans cette aventure. Et donc l'idée c'était par le biais avec Cheval Blanc, LVMH, de trouver et le guide Michelin, de trouver un nouvel élan pour les restaurateurs tout en étant extrêmement solidaire pour ne pas oublier les soignants après cette grosse période de confinement.
Parce que maintenant, c'est aussi très important de les remercier, de montrer le soutien. Alors, comment ça se passe pour les soignants et du côté des chefs?
Alors, voilà, en fait, certains restaurateurs aussi n'ont pas pu être actifs, voilà, parce qu'il y avait déjà assez d'actifs pour proposer des plateaux repas. L'idée, c'était de, voilà, moi, j'ai tous les soirs, j'ai 40 couverts, et l'idée, c'est de temps en temps, quand le restaurant est calme, c'est de pouvoir offrir une table ou deux, dans nos restaurants. Mais l'idée reliée avec le guide Michelin, de préparer un bon menu qui est aussi lié avec les producteurs locaux, construit sur la localité, de manière à pouvoir le retranscrire, parce qu'on s'est rendu compte aussi que pendant le confinement, les soignants nous sauvaient, mais les producteurs français nous nourrissaient. Et donc, c'est aussi de pouvoir redynamiser l'économie par le biais de ces menus qu'on offre aux soignants. Et en fait, ces menus du Michelin, c'est aussi nos clients qui nous aident. Donc, je donne un exemple. J'ai un menu à 150 euros, par exemple, chez moi. Les clients viennent manger, prennent ce menu de solidarité pour les soignants, le bon menu Michelin, et 10% de cette somme est reversée pour cumuler le rachat dans mon propre établissement d'une autre table. Voilà. Donc, c'est la participation de nos clients qui se cumule et qui va nous permettre aussi de pouvoir actionner d'autres tables dans des moments difficiles pour les restaurateurs.
Donc vous êtes tous gagnants-gagnants hein, dans cette histoire.
Exactement.
Et vous travaillez et vous faites fleurir vos entreprises. Marie-Éloi, une question pour vous.
Et nos producteurs.
Oui, c'est vraiment très vertueux. Vraiment bravo pour cette magnifique initiative qui inclut tout l'écosystème, l'association des soignants, les restaurateurs, nous les consommateurs, les producteurs locaux, même les entreprises, parce que j'ai vu qu'elles pouvaient faire des dons pour qu'on puisse donner des tables, offrir des repas aux soignants.
Tout à fait. Aujourd'hui, Ruinard a donné des tables, NSI est en train d'acheter des tables pour des restaurants, moi ici en localité, pareil, une entreprise de BTP. Et c'est ce qui est formidable, c'est de conserver la bienveillance pour nos soignants dans l'après et de dire attention, effectivement, l'être humain a tendance à rapidement oublier.
J'ai juste deux questions très rapides. Un, comment on sait que vous faites partie de ces restos qui offrent des tables aux soignants? Et deux, est-ce que ça concerne que les grands restaurants ou n'importe quel restaurant peut rejoindre ce mouvement?
N'importe quel restaurant peut rejoindre le mouvement, bien au contraire. Même un restaurant qui offre, avec une énorme générosité dans une difficulté économique majeure pour la restauration, une simple table de deux qui a été donnée avec beaucoup de cœur, est un geste exceptionnel. Quand on sait le nombre de restaurants qu'on a, effectivement, je pense qu'on peut tous y arriver et montrer que nous, en France, on n'oublie pas. Voilà. Les restaurateurs rentrent cette donation de table dans la table les soignants. S'ils veulent, ils organisent un bon menu qui va leur permettre de créer sur après la vente des renouvellements de table. Donc ça, c'est assez simple. Et les soignants rentrent leur demande sur ce site-là qui est géré après, derrière, directement par l'association d'Anne Romanoff.
Voilà. Mais aujourd'hui,
exactement. Et aujourd'hui, nous avons exactement 43 restaurants en une semaine, 303 tables d'offertes. Nous allons attendre de les actionner. J'ai des confrères qui ont démarré les bons menus, comme Arnaud Lallemand à Reims, qui a réussi à vendre pratiquement 150 bons menus, donc qui va redistribuer ses tables gagnées. Moi, aujourd'hui, sur 4 jours d'ouverture, j'ai vendu sur le bon menu 12 bons menus. Donc, je vais cumuler moi-même. Je pense qu'à la fin du mois, j'aurai encore, en plus des 10 tables qu'on a données, encore 2-3 tables à pouvoir offrir. On va laisser cumuler le nombre de tables pour pouvoir les redistribuer à une période de manière à ce qu'on ait assez de répondants. Là, aujourd'hui, on a besoin impérativement que nos clients reviennent dans nos restaurants, puissent prendre ce bon menu Michelin dans différents, dans la bistronomie, ça marche dans tout secteur de restaurant, la gastronomie bien évidemment, mais tout secteur, et puis de pouvoir faire ce geste exceptionnel et offrir.
Merci Arnaud Donquel. Hein, donc à table les soignants, revenir dans les restaurants, commander un menu et en offrir un aux soignants que nous respectons et que nous soutenons sans cesse. Et si on aidait aussi les soignants à partir en vacances. Il y a une initiative qui nous a beaucoup, beaucoup touchés. Elle s'appelle You Care, We Care. Elle est née fin avril. Bonjour Isabelle Grimaldi.
Oui, bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la porte-parole de cette association You Care, We Care en France. Très rapidement, comment ça marche? J'ai un appartement, j'ai une maison. Comment on fait? Je la mets à disposition de soignants. Racontez-nous.
Alors c'est très simple, il suffit d'aller sur le site youcarewecare.net et remplir un formulaire qui est extrêmement simple, dire combien vous avez de semaines libres dans votre logement, dans votre maison de vacances. Ça peut être autant en province, un gîte rural.
Ça peut être une chambre, comme une maison.
Oui, ça peut être du couchsourcing. Donc en fait, on a beaucoup d'ambassadeurs et beaucoup de propriétaires qui sont ravis d'accueillir chez eux les soignants. Afin de prendre soin d'eux, comme ils ont pris soin de nous.
Bien sûr.
C'est vraiment le but de l'opération au départ, puisque c'est une cinquantaine en fait d'ambassadeurs bénévoles, hein, des personnes complètement bénévoles, qui ont choqué un petit peu par ce qui se passait, par des proches qui étaient très malades, moi-même j'étais malade par exemple, et qui ont décidé vraiment de rendre l'appareil.
De leur offrir
en fait,
du repos dans un cadre agréable. Marie-Éloi.
Et franchement, c'est assez émouvant de voir toutes ces initiatives en faveur de nos soignants et c'est vraiment génial de les chouchouter ainsi. Est-ce que vous travaillez avec des réseaux, notamment d'hôtellerie ou de, je sais pas, Airbnb, pour vous faire connaître davantage et qu'il y ait de plus en plus de maisons prêtées pour nos soignants cet été ?
Alors, c'est la prochaine étape, mais au début, c'était très important pour nous que ça parte aussi des cœurs, qu'on ouvre les volets des particuliers comme pour leur faire ouvrir leur cœur, afin qu'il y ait déjà une base en fait de assez nombreuses semaines. Donc actuellement, on a plus de 500 semaines, dont 100 qui sont en France. On a commencé un petit peu après deux autres pays, donc après la Belgique et le Luxembourg. Mmh. Et donc, effectivement, la prochaine étape, c'est de s'adresser à des
professionnels,
à
tous ces réseaux. Voilà. Ça s'appelle YouCare, WeCare. Merci Isabelle Grimaldi. Hein. Déjà 331 semaines de vacances offertes et 1007 chambres mises à disposition pour le personnel soignant. Ce sont toutes ces initiatives hein, qui montrent qu'on pense à vous, on pense aux soignants et on va continuer à les soutenir. Il est 13h51, c'est le moment de retrouver le coup de main d'Europe 1. Vous avez un problème avec votre entreprise, vous souhaitez de l'aide, des conseils, des suggestions. Europe 1 avec la CCI France est là pour vous aider. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Et c'est le moment de retrouver Nathalie Carré pour le coup de main d'Europe 1. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth.
De
bonjour
CCI tout le monde. France. Bonjour Marie. Et aujourd'hui, nous accueillons une entreprise qui a des questions à vous poser. Ça s'appelle Un Livre, Une Tasse de Thé. C'est vous qui l'avez cofondé, Juliette Debrie. Bonjour.
Bonjour. Merci beaucoup.
Vous êtes deux co-gérantes de cette librairie Salon de Thé. Elle est située à Paris. Vous réunissez votre amour des livres autour d'une petite gourmandise. Hein. Ça nous a donné envie d'aller y faire un tour quand on a regardé votre projet avec l'équipe de La France Bouge. Je vous laisse poser votre question à Nathalie Carré.
Merci beaucoup de nous accueillir dans cette belle équipe mission. Et pour parler de notre librairie Salon de Thé, effectivement, on est situé à Paris, 13 rue la Place de la République. Et nous voulons ouvrir le 1er septembre pour la rentrée littéraire. Mais la crise du Covid a considérablement ralenti nos démarches ces derniers temps. Et les institutions qui devaient se réunir en commission dans le but de nous accorder des subventions ou des prêts à taux zéro en mai ont été reportées au mois de juillet. Pour essayer de rattraper le temps, nous avons créé notre page Ulule, un livre et une tasse de thé avec un objectif de 10 000 euros afin de compléter notre apport personnel auprès des banques dans la précipitation. Et nous nous demandons aujourd'hui quelles démarches nous pouvons mettre en place dans cette période particulière pour garder cette date d'ouverture.
Nathalie Carré de la CCI France.
Alors, côté financement, puisque j'ai regardé votre dossier, vous avez tout fait. Donc, à part attendre, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Vous avez votre rapport personnel qui est propre, qui est conséquent. Vous avez le prêt d'honneur, vous avez le prêt bancaire, vous avez les aides du Centre National du Livre. Donc, voilà, il faut attendre. On verra s'il y a des recours, on viendra vous aider. En revanche, par rapport à votre interrogation, ce que je me demande, c'est s'il faut attendre septembre, en fait. Vous avez là une opportunité, pendant la période estivale, de créer des liens avec vos futurs clients, de commencer à faire rentrer du cash, l'air de rien, même si c'est pas énorme. En tout cas, de créer du lien. Donc moi, j'ai envie de vous proposer quatre choses à faire dès maintenant. Et en plus, en ce moment, vous avez rien d'autre à faire qu'attendre. Donc autant occuper ce temps-là. Donc moi, je vous proposerais un premier point, c'est de faire collaborer vos donateurs Ulule pour créer une offre, une identité, une vraie proposition de valeur. Parce que aujourd'hui, ce que vous dites, votre promesse, c'est lire en mangeant un gâteau. Je pense qu'on peut aller bien au-delà de cette promesse. Vous pourriez également profiter donc de cette communauté que vous êtes en train de créer hein, avec la campagne Ulule pour organiser des, vous savez, les réunions Tupperware. Ben vous pourriez faire des ateliers Tupperware chez les uns chez les autres.
Tupperware avec des lectures de livres.
Oui, non, mais c'est l'image, c'est pour dire on va chez les gens, en fait. Ah, mais Elisabeth, mais oui, les réunions Tupperware. Ah, mais
c'est, mais oui, ah. Je suis désolée.
Ah, c'est ça.
On va dire réunion à thème, parce que là, on rentre dans
réunion à thème chez les gens.
Et donc,
du coup, vendre chez les autres, chez les tiers.
C'est ça.
Pourquoi pas faire lecture pour les plus petits, révision des classiques du bac pour les plus grands. En tout cas, créer du lien. Deux autres petites idées, peut-être installer un étal devant votre boutique aux heures où il y a le plus de passages, parce que la boutique est pas accessible, il y a encore des travaux à faire, etc. Mais un bout de bois, deux tréteaux, quatre bouquins, et vous pouvez commencer à vendre. Et puis le dernier point, peut-être construire des partenariats de distribution d'une offre, par exemple livre détente et biscuits avec un boulanger, livre comprendre avec du chocolat noir chez un chocolatier.
C'est bien
pour ça. Commencer à vous faire connaître et commencer à engranger un peu de cash, parce qu'en plus tout ça va prouver à vos financeurs que un, vous avez pas attendu, et que deux, ça marche. Le moindre euro que vous faites rentrer, ça prouve que votre concept peut fonctionner et ça va donner du crédit à votre dossier de financement.
Marie-Éloi, je crois que vous avez une petite remarque à faire.
Juste bravo de lancer cela en ce moment. Vraiment, ça donne de l'énergie
à toutes.
C'est
osé, hein, c'est courageux.
C'est osé, 24 ans en plus, vraiment ouais. un grand bravo. Et j'espère que votre communauté va vous aider à passer cette période un peu délicate.
Et puis, on ira même tester vos livres et vos gourmandises.
Et les gâteaux, surtout.
Et les gâteaux.
Merci à vous, c'est la fin de votre émission. Merci à vous, Marie-Éloi, notre coach de la semaine. On vous retrouve demain.
Avec joie.
Hein, et merci à vous, Dora. On se retrouve demain. Nous parlerons tourisme. Comment tourisme durable, comment partir en vacances sans se ruiner et en respectant la planète. À demain, tout un programme.